très bonne question pour vous. Est-ce que les pratiques religieuses peuvent nous rapprocher de Dieu? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui en surprendra plusieurs. Aujourd'hui même, à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On va aborder des sujets qui vont sûrement vous intéresser une fois de plus aujourd'hui. Vous allez le constater en entendant les questions qu'on va poser au grand livre de Dieu. Les voici. Y a-t-il un seul Dieu qui a la puissance de se révéler aux hommes? Est-ce que les pratiques religieuses peuvent nous rapprocher de Dieu? Est-ce que c'est bon signe quand la parole qui nous est enseignée nous dit toujours des choses flatteuses? Pourquoi est-ce que tant de gens haïssent Dieu? Quelle est la différence entre la loi et la grâce? Qu'est-ce qui se produit quand on essaie de se mériter les faveurs de Dieu? Demeurez avec nous. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner le conseil de Dieu pour chacun de nous. Mais premièrement, demandons à Dieu de disposer nos cœurs afin qu'on comprenne bien ce qu'il veut nous enseigner. Prions. Ô Seigneur, oui, dispose nos cœurs. Que rien ne fasse obstacle à ce qu'on comprenne tout le bel enseignement que tu veux nous donner aujourd'hui dans ta grâce. On compte sur toi, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que le Seigneur Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme. Nous avons aussi vu que seul l'Esprit peut nous enseigner la parole de Dieu, et il le fait lorsque nous le désirons de tout cœur. Un croyant est placé dans la famille de Dieu comme un fils ou une fille adulte. L'Esprit nous confirme que nous sommes enfants de Dieu. C'est par la foi que nous expérimentons la présence de Dieu. Cela se produit souvent alors qu'il nous fait passer au creuset de l'épreuve pour nous rapprocher de lui. Chers amis, débutons notre lecture. L'Épître de Paul aux Galates, chapitre 4, verset 6. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Oui, lorsque nous sommes fils de Dieu, l'Esprit de Dieu nous le confirme, et nous en éprouvons une grande joie. Nous devenons fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Oui, chers amis, nous ne sommes plus considérés comme un enfant, devant obéir à son pédagogue, tout comme les enfants des esclaves chez les Romains. Parce que nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu comme un adulte, et nous devenons héritiers de la promesse et des bienfaits de Dieu. Les Romains adoptaient leur propre fils lorsqu'ils jugeaient qu'il était apte à prendre ses propres décisions. De même, Dieu nous adopte dans sa famille lorsque nous nous confions en son fils Jésus-Christ. Verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Seul le vrai Dieu peut se révéler aux hommes. Paul rappelle aux Galates qu'ils étaient idolâtres. Les archéologues ont trouvé beaucoup de traces des temples et des idoles de l'époque en Asie mineure. La population s'adonnait beaucoup à l'idolâtrie. Paul affirme que les idoles sont rien, et dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 2, il dit aussi qu'elles sont muettes, autrement dit, les idoles ne sont pas des vrais dieux, et elles ne peuvent se révéler à ceux qui les vénèrent. Un texte de l'Ancien Testament le précise aussi, le psaume 115, les versets 4 à 8. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux
qui se confie en elle.
Poursuivons notre lecture de l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 9. « Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore ?» Retourner à la loi, c'est retourner à l'idolâtrie. Le texte précise « connu de Dieu » signifie en fait « approuvé de Dieu » ou « reconnu de Dieu ». Ils étaient venus au Seigneur Jésus par la foi et Dieu les avait acceptés. La plupart des croyants galates étaient d'origine païenne. Maintenant qu'ils étaient devenus chrétiens, ils se tournaient vers la loi mosaïque, et selon Paul, c'est équivalent à retourner vers l'idolâtrie qu'ils avaient délaissée. Verset 10. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Un système de loi ne nous rapprochera pas de Dieu. Paul dit cela comme reproche. Vous observez les jours, c'est-à-dire les jours de sabbat. Paul a dit aux Colossiens, chapitre 2, verset 16, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. » L'expression « les mois » réfère probablement à l'observation de la nouvelle lune, une pratique populaire en Israël pendant la période des rois. Les prophètes avaient donné des avertissements à ce sujet. L'expression « les temps » signifie en fait les saisons. Dieu avait appointé sept fêtes qui étaient un symbole ou une image de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. L'expression « les années » réfère aux années sabbatiques. Si les Galates avaient observé les années sabbatiques, ils se seraient placés complètement sous le joug de la loi mosaïque. Certains groupes légalistes affirment observer la loi mosaïque, mais en fait, ils n'observent que le jour du sabbat, pas les années sabbatiques. Mes amis, la loi forme un tout, y compris les années sabbatiques et les années du jubilé. Dans son épître, Jacques a dit, « Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Citation de Jacques, chapitre 2, verset 10. C'est-à-dire, il est coupable d'avoir violé la loi. Revenons à Galates, chapitre 4, verset 11. « Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. » Paul dit le plus gentiment possible qu'il a peut-être perdu son temps avec eux. Puisqu'ils ont été sauvés par la grâce de Dieu, se replacer sous le joug de la loi est équivalent à retourner à leur ancienne forme d'idolâtrie. Il leur rappelle que ce n'est pas au moyen de la loi mosaïque qu'ils ont connu Dieu, mais par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, nous arrivons à une section personnelle que Paul insère dans son épître. Verset 12. « Soyez comme moi. « Car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. » « Soyez comme moi » serait mieux traduit par « devenez comme moi ». Les Galates écoutaient des faux docteurs et ils considéraient Paul comme un ennemi parce qu'il leur disait la vérité. En fait, Paul dit « Nous sommes tous au même point, nous sommes tous des croyants et nous faisons tous partie du corps de Christ, donc nous devrions nous respecter mutuellement. » Verset 13. « Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. » Maintenant, Paul leur rappelle leur comportement d'autrefois en ce qui concerne l'écharde qu'il avait dans la chair. Quelle était cette écharde? Lisons, versets 14 et 15. « Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez, au contraire, reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que, si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Il semble que l'écharde dans la chair de Paul fut un problème avec ses yeux, et il semble que ce problème ne faisait pas de lui une personne attrayante. Je ne peux concevoir qu'ils auraient voulu s'arracher les yeux pour les donner à Paul si celui-ci aurait eu besoin d'une jambe, d'un pied ou d'un bras. Il semble que Paul ait souffert d'une maladie des yeux fréquente dans cette région, et il sortait du pu des yeux de ceux qui en souffraient. Donc, ce problème ne faisait pas de Paul une personne attrayante à regarder lorsqu'il exerçait son ministère parmi eux. Paul dit, « Vous n'avez pas tenu compte de mes yeux, et vous m'avez bien accueilli lorsque je vous ai prêché l'Évangile. » Verset 16. « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? » Êtes-vous de ceux qui ne veulent pas entendre l'enseignement biblique? Le prédicateur J. Vernon McGee, dont nous adaptons les textes, racontait ceci. « Je voulais toujours placer un écriteau devant moi sur l'estrade lorsque je prêchais. Un écriteau sur lequel était écrit « Nous voudrions voir Jésus » citation de Jean chapitre 12, verset 21. Un jour, un ancien de mon église m'entendit exprimer ce désir, et il me fabriqua l'écriteau qu'il plaça de façon à ce que je puisse le voir alors que je prêchais. Cependant, il y a un verset que j'aurais aimé afficher afin que l'auditoire puisse le lire, mais je n'ai jamais osé le faire. Ce sont ces paroles de l'apôtre Paul. « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? » Fin de la citation. De nombreuses personnes n'aiment pas se faire prêcher la vérité par un prédicateur de nos jours. Ils préfèrent entendre des paroles flatteuses. Ils aiment se faire flatter, dans le bon sens du poil, afin qu'ils se sentent bien. C'est ce que nous lisons dans 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. » Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Nous aimons recevoir des tapes dans le dos et cela se fait souvent à partir de l'estrade de nos jours. Ce n'est pas toujours la vérité qui y est proclamé. Versets 17 et 18. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Paul dit qu'il est bon de désirer ce qui est le meilleur, mais que les judaïsants veulent leur scalp. Ils veulent attacher votre scalp à leur ceinture et être capables de dire « Nous sommes allés en Galatie et nous avons eu tant de convertis. » Cela n'aurait pas été exactement vrai. Paul a dit à peu près la même chose aux croyants de Corinthe. « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traités moins favorablement que les autres églises, sinon en ce que je ne vous ai point été à charge? Pardonnez-moi ce tort. Voici. Pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas, en effet, aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. » 2 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 15. L'avertissement de Paul est encore très pertinent de nos jours. Les judaïsants avaient aussi rendu visite aux croyants de Corinthe. Les chrétiens de Corinthe avaient aimé Paul et il dut les avertir au sujet des judaïsants. Les faux docteurs ont souvent du charme et du charisme. Je suis étonné de voir comment certaines sectes savent se présenter si bien. J'ai vu des émissions produites par ces sectes et elles sont d'une perfection technique. C'est là la subtilité des sectes. Tout est beau dans l'émission et ce sont des personnes attrayantes qui y participent. De plus, ils assaisonnent leur message de quelques vérités, mais en fait, ils détournent les gens de la vérité biblique. L'avertissement de Paul est encore très pertinent de nos jours. Ce chapitre se termine avec l'allégorie de Agar et de Sarah. Cette section relève le contraste que nous observons entre ces deux femmes. Agar et toutes les références à elle représentent la loi. Sarah et toutes les références à elle représentent la foi en Jésus-Christ. Verset 19. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Paul introduit son allégorie destinée aux croyants de Galatie par l'expression « tendre mes enfants ». Le mot grec traduit « mes enfants » est « technia », et il signifie « nouveau-né ». Paul a un cœur tendre et il se compare à une mère. Verset 20. « Je voudrais être maintenant auprès de vous, et changez de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. » Paul aurait aimé être parmi eux et parler sur un ton différent. Il se faisait du souci pour les Galates. Il a utilisé des paroles sévères dans sa lettre, mais nous percevons tout de même son cœur tendre. Verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Il y a des personnes qui enseignent les 10 commandements ou un système légaliste avec des lois, mais elles ne parlent pas des pénalités imposées par la loi. Elles omettent de présenter le ministère de condamnation de la loi. Notez ce qui se produit lorsque Dieu convoqua Moïse sur la montagne pour lui donner la loi. Le 3e jour au matin, il y avait des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur que grand nombre d'entre eux ne périssent. » Exode chapitre 19, versets 16 à 21. Dieu dit au peuple de se tenir loin lorsqu'il a donné la loi à Moïse. Dans Exode chapitre 20, versets 18 et 19, nous lisons « Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Dieu est saint et le monde est pécheur. Nous pouvons difficilement concevoir la sainteté de Dieu. Vous et moi sommes des rebelles dans l'univers de Dieu. Nous sommes des pécheurs perdus, et nous n'avons pas la capacité de suivre Dieu ou de lui obéir. L'Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 6 et 7, nous dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. » Mes amis, le monde n'aime pas Dieu et s'oppose à celui-ci. Et cela ne va pas en s'améliorant, chers amis. Il en est ainsi depuis la chute dans le paradis, depuis le premier péché commis par Adam. Il ne faut pas s'étonner que les enfants d'Israël se soient éloignés du mont Sinaï en disant « Nous mourrons ». Mes amis, Dieu est saint, et il habite dans la gloire des lieux célestes. Nous sommes sur terre à faire des galettes de boue dans le monde, parce que nous sommes formés de la poussière de la terre. Nous nous agitons sur la terre tout en ayant l'audace de désobéir à Dieu. L'affection de la chair est ennemie envers Dieu. Paul dit aux Galates, « Écoutez ce que dit la loi, vous ne l'avez pas encore entendue. » Ce fut une expérience terrifiante lorsque Dieu donna la loi. Les Galates semblaient vouloir se placer sous le joug de la loi, donc Paul va la leur faire entendre. Verset 22. « Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. » Paul va se servir d'une illustration de la vie d'Abraham, tirée du livre de la Genèse, les chapitres 16 à 21. Paul va présenter le contraste entre Ismaël, le fils d'Agar, et Isaac, le fils de Sarah. L'un était le fils d'une esclave et l'autre d'une femme libre. La femme libre représentait la grâce et la femme esclave, la loi mosaïque. Il va souligner le contraste entre elles dans son allégorie. Paul ne dit pas que l'histoire d'Abraham est une allégorie. Certains se servent de ce verset pour affirmer qu'elle l'est. Paul affirme simplement qu'une allégorie peut être faite à partir de l'incident entre ces 2 femmes. La leçon s'applique encore de nos jours. Verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Le texte dit « Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. » Le code d'Amourabi, celui qui était en vigueur dans la culture du temps d'Abraham, disait que le fils d'un esclave était un esclave. Quoique Ismaël fût le fils d'Abraham, il était tout de même un esclave. et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. La naissance d'Isaac fut miraculeuse, chers amis. Abraham et Sarah étaient trop âgés pour avoir un enfant. Sarah n'était plus capable d'enfanter. Le sein de Sarah était comme un tombeau, et de la mort, Dieu a fait sortir la vie. Voilà la puissance de Dieu à l'œuvre, chers amis. Verset 24. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances. L'une, du mont Sinaï, enfantant, pour la servitude, c'est Agar. Ces faits ont une valeur allégorique. Paul dit que cet épisode de la vie d'Abraham peut inspirer une allégorie, mais elle n'en est pas une. Paul va tirer une leçon du récit. Nous verrons les détails de cette allégorie à la prochaine émission. Pour l'instant, précisons que retourner sous la loi, c'est essayer de payer un cadeau de Dieu. Dieu donne gratuitement. Il donne la vie éternelle lorsque nous nous repentons de nos péchés et que nous acceptons le pardon qu'il nous offre en la personne de Jésus-Christ. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a donné sa propre vie en sacrifice pour nos péchés. Il a expié nos péchés à notre place. Il a donné sa vie en rançon pour nous. Dieu veut que nous revenions à lui et que nous l'aimions. Après avoir reçu le don de la vie éternelle, c'est une insulte à Dieu que d'essayer de mériter ses faveurs et sa grâce en observant des lois et des règlements. Que diriez-vous si vous feriez un cadeau d'anniversaire à une personne et qu'elle insistait pour vous le rembourser? Retournez à la loi après avoir reçu la grâce de Dieu et qui voit faire cela? Dieu veut une relation de cœur entre nous et lui, non une relation de maître et d'esclave, ou une relation d'employeur et d'employé. Ces bénédictions sont une grâce, et non un salaire que nous avons mérité pour avoir observé des lois et fait des bonnes œuvres. Écoutez ce texte de l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Nous ne pouvons mériter le salut par quoi que ce soit nos mérites, que ce soit nos bonnes œuvres, que ce soit une vie exemplaire. C'est une grâce que Dieu fait envers chacun d'entre nous. Nous sommes des pécheurs perdus. Dieu vient nous sauver. Dieu veut nous racheter par le sacrifice de Jésus. Il l'a fait, une fois pour toutes. À nous d'y placer notre foi, d'avoir confiance en l'œuvre de Dieu accomplie par Jésus-Christ. Écoutez cet autre texte de Romains, chapitre 3, versets 19 et 20. « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » En étudiant, en enseignant la loi, l'homme découvre qu'il est un être pécheur. Un pécheur perdu, sans espoir. Mais, fort heureusement, il y a la grâce de Dieu, la bonté, la miséricorde de cet être créateur. Verset 21, toujours de Romains chapitre 3. « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. » Chers amis, placez votre foi en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu recommande à chacun d'entre vous. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Épître de Paul aux Galates, chapitre 4, les versets 19 à 31.
Merci, Régent. Ça m'a frappé quand tu as dit qu'après avoir reçu le don de la vie éternelle, c'est une insulte à Dieu d'essayer de mériter ses faveurs et sa grâce en observant toutes sortes de lois et de règlements. Je pense que notre arrière-plan religieux ici au Québec nous porte à penser qu'il faut faire toutes sortes de choses pour se mériter les faveurs de Dieu. Combien de fois j'ai entendu des gens dire, au sujet de certaines personnes, « Lui, il a mérité son ciel » ou « Elle souffre tellement, elle est sûrement en train de gagner son ciel. » Mes amis, s'il fallait que ce soit comme ça, je suis certaine que je n'irais jamais au ciel. Parce que si je fais un recul dans ma vie, je peux sincèrement vous dire que même si je m'étais mise à faire toutes sortes de sacrifices, toutes sortes d'aumônes, et même si j'avais souffert physiquement ou moralement pendant des années, ça n'aurait jamais été assez pour expier tous les péchés que j'avais commis, surtout avant de connaître Dieu. Et même maintenant que je suis une enfant de Dieu, je vois encore à quel point la chair, le monde et le diable peuvent faire trébucher un chrétien sincère. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça me fait penser à l'apôtre Paul, qui dit dans sa première épître à Timothée, au premier chapitre, verset 15, il dit « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier ». Et il dit au verset 13 et 14, « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a abondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. » Mes amis, on voit bien que Paul n'a pas été justifié par des bonnes œuvres. Et même une fois devenu chrétien, il dit, dans le 7e chapitre de son épître aux Romains, au verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Et il ajoute au verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Mon ami, si tu n'as pas encore reçu le pardon de tes péchés et le don gratuit de la vie éternelle, je t'en supplie, n'essaie pas de le faire par tes propres moyens, par des bonnes œuvres ou des sacrifices. Viens à Jésus, maintenant. Repens-toi. Détourne-toi de tout ce qui est péché dans ta vie. Demande à Jésus de te sauver, de te donner ce cadeau de la vie éternelle pour lequel il a payé en entier en mourant sur la croix. Et si tu es un enfant de Dieu, n'essaie pas de te mériter les faveurs de Dieu. Tu es son enfant, il t'aime inconditionnellement. Compte sur sa grâce seule pour marcher d'une manière digne de lui. N'essaie pas d'être fort par tes propres moyens. C'est encore Paul qui nous révèle ce que Dieu lui a dit dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, versets 9 et 10. Voici ce que Dieu lui a dit et ce qu'il a conclu. « Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Mes amis, déposons nos fardeaux aux pieds de Jésus. Demandons-lui la grâce dont on a besoin pour marcher avec lui dans l'amour, dans la joie. Faisons-lui confiance. Sa grâce nous suffit. Notre Dieu merveilleux nous aime inconditionnellement.
Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G6P2. Chers amis, au revoir.
Et à demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.